Bien-être ensemble, le magazine de la famille et de l'éducation présenté par Émilie Brigand. C'est le rendez-vous avec vous-même à ne pas manquer sur Radio Médecine Douce.
Très heureuse année à vous, très chers auditeurs et auditrices de Radio Médecine Douce. Je suis heureuse de vous retrouver en ce mois de janvier 2019, tout neuf, avec ces chiffres pleins de vie et d'espoir. L'espérance de vie est aujourd'hui en France de 78 ans pour les hommes et de 84 ans pour les femmes. Et l'INSEE projette un allongement continu de cette espérance de vie d'ici 2060, où les Français atteindront facilement 86 ans et les Françaises 91 ans. Alors une société en voie de vieillissement, ça a plein d'avantages, comme celui d'imaginer de pouvoir faire des enfants de plus en plus tard. Je dis imaginer parce que c'est bien souvent un projet avant d'être une réalité, et que parfois la réalité se heurte à un corps et au corps médical. Mais le corps avance aussi, le corps médical, alors tout devient possible. Romain nous écrit dans un mail « Je pense qu'élever des enfants est un bonheur, transmettre, enseigner, en faire des honnêtes gens me rend heureux et fier. Pourquoi me priver de ce bonheur s'il est encore accessible, même si je suis un peu plus vieux ?» Hommes et femmes se rejoignent-ils aujourd'hui sur leur désir d'enfant tardif? Quelles sont les spécificités d'une grossesse tardive et comment la vivre la plus sereinement possible? L'arrivée d'un bébé à plus de 40 ans, comment se prépare-t-elle? Et en termes d'éducation, comment se positionnent les parents qui savent qu'ils auront, a priori, un peu moins de temps que les autres pour profiter de leurs enfants? Pour nous éclairer, deux invités aujourd'hui sur le plateau de Bien-être Ensemble, consultante dans le digital et fondatrice du webzine digital Côté Bébé. Elle est aujourd'hui journaliste et maman d'un enfant qu'elle a eu à 41 ans et co-auteur de « Avoir un enfant à 40 ans » sorti chez Erol il y a quelques jours. Bonjour Anne-Lise Pernotte.
Bonjour.
Et bonne année.
Merci, bonne année à vous.
Bonjour Agathe Giraud-Roux.
Bonjour.
Et bonne année, je vous réveille un peu là.
Oui, oui, bonne année.
Vous êtes journaliste aussi et co-auteur avec Anne-Lise, donc de Avoir un enfant à 40 ans. Et vous vous considérez aussi comme une maman tardive. Alors j'ai dit vous vous considérez, parce qu'on va voir d'ailleurs dans quelques instants pourquoi et à quel âge vous avez eu votre enfant. Parentalité tardive. Et si c'était la nouvelle norme? Chers auditeurs et auditrices, vous êtes peut-être concernés. Nous attendons donc vos témoignages et vos questions dans cette émission. C'est simple, vous pouvez nous les écrire dans l'espace commentaires de la radio. Bienvenue à tous dans votre émission.
Bien-être ensemble.
Anne-Lise Pernotte, vous sortez avoir un enfant à 40 ans, coécrit donc avec Agathe Giraud-Roux. Il existe peu de livres sur le sujet, Anne-Lise, c'est pour ça que vous avez eu envie d'écrire là-dessus, pour combler déjà ce manque
oui,
d'informations.
Oui, absolument. En fait, la parentalité tardive, c'est un phénomène beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut imaginer. Et c'est une thématique qui est très, très peu traitée. Ou quand elle est traitée, elle est souvent sous un angle anxiogène et hyper médicalisé. Donc, avec Agathe, on a eu envie de porter un regard un petit peu différent sur ce phénomène de société qui est en constante croissance, enfin, qui ne cesse de s'amplifier.
Vous pensez que ce sera la norme finalement, peut-être dans 20, 30 ans? Il y a déjà des études qui le projettent, ça?
Alors, il n'y a pas
qu'on
de
chiffres. On va avoir des enfants de plus en plus tard?
Il n'y a pas de chiffres précis, mais on sait quand même que le nombre d'accouchements chez les femmes de plus de 40 ans a triplé depuis 1994. Mmh. Donc, on peut imaginer que le phénomène va s'amplifier assez rapidement.
Pour l'écriture de votre livre, Avoir un enfant à 40 ans, vous étiez donc deux. Je passe maintenant la parole à Agathe. Le sujet vous concerne pas tant que ça, puisque finalement, vous avez eu votre premier enfant à 37 ans. C'est jeune, 37 ans, aujourd'hui.
Eh bien, justement, avoir un enfant à 37 ans, maintenant, je trouve que c'est jeune. Maintenant que j'écris ce livre et que je me rends compte, j'ai rencontré justement avec Annelise beaucoup de femmes qui ont eu des enfants à 41, 43, 45 ans, 46 aussi parfois, complètement aussi naturellement. Et moi, j'étais tellement stressée à 36 ans, 35 ans, même à partir de 33 ans, de ne pas avoir d'enfant. Je pensais que ça allait être extrêmement compliqué, difficile. À 35 ans, on dit souvent que, et ce qui n'est pas complètement faux, que la réserve ovarienne s'appauvrit terriblement, il y a une grosse chute. Donc pour moi, c'était une deadline à ne pas franchir. Et puis, ce n'était pas dans mes projets de jeunesse. Je pensais avoir des enfants beaucoup plus tôt. Je pensais en avoir plusieurs en plus. Donc, passé 35 ans, j'étais un peu en panique. Ouais. Ouais.
Mmh. Et vous, Agathe, vous avez eu votre premier et seul enfant du... et vous, Annelise, pardon. Ça y est, je vais vous confondre quelques minutes et puis après, ça ira mieux. Vous avez eu votre premier et seul enfant, du coup, à 41 ans.
À 41 ans, oui, absolument.
Vous l'avez vécu de la même manière? C'était un stress?
Alors, non, pas tant que ça. En fait, on a deux parcours assez différents. C'est ça qui était intéressant et assez riche aussi dans l'écriture du livre. C'est que moi, je n'avais pas envie d'enfant avant 40 ans. Mmh. Voilà, en fait, j'avais une vie qui faisait que je n'avais pas forcément besoin d'enfant. Et je me suis retrouvée en famille recomposée et c'est là où j'ai eu envie, j'ai découvert la vie de famille en quelque sorte et ça m'a donné envie d'avoir aussi un enfant.
Et quand vous avez eu envie d'avoir un enfant, vous avez eu peur que ça ne marche pas, vous avez eu toutes ces inquiétudes qui viennent?
Alors,
souvent
j'étais un peu inconsciente par rapport à ça, je me disais que ça allait prendre du temps, mais je ne pensais pas que ce serait compliqué. Alors, en l'occurrence, ça n'a pas été compliqué, mais j'ai découvert aussi que ça pouvait être très compliqué en écrivant le livre.
Et pour vous, Agathe, ça a été compliqué finalement de mettre en route une grossesse ou pas?
Ça a pris un an, voilà.
Ça a pris
donc,
un an.
C'est pas hyper compliqué, mais c'est la moyenne à peu près. À cet âge-là, on va dire.
Pour l'écriture de votre livre, vous vous êtes entourée de spécialistes sur le sujet de la parentalité tardive. Vous êtes journaliste, donc vous avez fait de l'enquête, vous avez interrogé des gens, mais vous êtes aussi entourée de psychologues, d'autres types de médecins.
Oui, absolument. On a fait appel à différentes personnes dans le corps médical, donc des médecins, des obstétriciens, des psychologues, des thérapeutes aussi. On a fait appel à pas mal de thérapeutes pour parler de médecines un petit peu alternatives qui peuvent être intéressantes dans le traitement de l'infertilité, par exemple.
Mmh. Et puis, alors, du coup, votre livre, il y a beaucoup de témoignages, il y a quelques fiches pratique aussi, vous l'avez articulé comme ça?
Oui, alors l'idée c'était de ne pas faire juste une compilation de fiches pratiques, mais d'appuyer toutes ces fiches pratiques sur des témoignages à la fois d'experts, mais aussi de parents. On est vraiment, avec Agathe, allée à la rencontre des parents ou des futurs parents tardifs pour donner plus de réalité au bouquin.
Ce qui vous a permis aussi d'écrire un livre qui suit une certaine chronologie proposée par le chapitrage, c'est-à-dire qu'on va du désir de grossesse à l'éducation d'un enfant quand on l'a eu tardivement. Et si on suit cette chronologie, donc je voudrais qu'on commence par parler du désir d'enfant, peut-être avec vous, Agathe Girorou. Un enfant tardif ne veut pas forcément dire un désir tardif d'enfant. C'est-à-dire que pour vous, Annelise, vous avez eu envie d'un enfant tard, mais vous, Agathe, vous vouliez un enfant avant, et puis voilà, ça ne s'est pas fait. Mais enfant tardif, ça ne veut pas dire désir tardif d'enfant.
Non, pas du tout. Je voudrais juste compléter un tout petit peu par rapport à ce qu'on vient de dire. En fait, on a vraiment fait un travail d'investigation de journaliste parce que le terrain était relativement vierge. On ne s'est pas appuyé sur des études. Enfin, il y a une étude qui est sortie par des sociologues, mais il y a vraiment très peu de choses sur la parentalité tardive. Donc, on est parti d'un terrain vierge et tout ce qu'on a fait, on l'a construit avec des enquêtes, de témoignages et de professionnels. Et pourquoi on a aussi beaucoup de fiches pratiques ? Parce qu'Annelise, comme moi, on est des personnes qui aiment apporter des solutions. On aime se dire, OK, il y a un souci, eh ben on va trouver une solution et on va donner des astuces. On est comme ça et du fait qu'on soit dans ce mood-là, on s'est dit que c'est complètement logique dans notre livre, ça apparaisse. Donc, on a un petit problème de fertilité, on a des solutions, on a des gros problèmes de fertilité, on a alors c'est pas nous
des
qui...
Pistes, en
voilà,
tous les
on
cas.
A des pistes, mmh. on a enquêté pour savoir ce qu'on pouvait proposer de positif. On a toujours des solutions positives à apporter.
Et puis c'est peut-être ce dont vous aviez besoin, vous aussi, au moment où vous avez mis en route une grossesse plus ou moins tardive.
Ouais.
C'est des choses pratiques, pas que de la théorie.
En fait, on se rend compte aussi, alors là, on va revenir sur votre question, par rapport au désir d'enfant, qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes, d'ailleurs, qui sont, qui sont un peu perdus, qui ne trouvent pas de réponse à leurs questions, hormis un gynécologue qui n'a pas forcément de temps, un service d'AMP qui est surchargé, etc. etc. Donc, on se retrouve souvent avec des personnes sur des forums qui posent des questions, et là, on a un peu tout et n'importe quoi, c'est le grand supermarché. Donc, nous, on est aussi là pour recentrer un petit peu tout ça et dire voilà, il y a beaucoup de choses inexactes aussi, donc on a essayé d'apporter des exactitudes, des précisions. Le désir d'enfant, effectivement, il est complètement différent. En tout cas, le fait qu'il y ait cette fameuse chute de fertilité pour la femme à 35 ans provoque inconsciemment un désir à cet âge-là, généralement très fort d'avoir un enfant. Et la plupart des témoignages qu'on a eu des mamans qui se sont un peu réveillées sur le tard, c'était dans ces zones-là, à 35-36 ans, où inconsciemment, on approche la quarantaine et on se dit « Ouh là là, il se passe quelque chose ». Et tout d'un coup, ça devient très fort, on ne pense plus qu'à ça. C'est justement un peu le problème, c'est qu'à partir du moment où on ne pense plus qu'à ça, quelque part, le psychique a une importance énorme et bloque parfois le fait que ça puisse se faire. Donc, pour certains couples, ça prend beaucoup de temps. Pour certains couples, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, pour certaines femmes qui le vivent très bien, d'une manière un peu spontanée, paf, ça se passe tout de suite. Et d'ailleurs, je passe la parole à Annelise parce qu'elle a une expérience justement par rapport au déclenchement de la grossesse.
Alors, on va parler de la grossesse dans un deuxième temps. D'accord. Après, là, on va rester sur le désir.
Ah, d'accord.
Pour l'instant, non, c'est pas grave. Nous brûlons un petit peu les étapes. Sur ce désir et sur les personnes que vous avez interrogées, là, vous parlez de votre cas, c'est-à-dire de quelqu'un qui finalement a été un peu secoué à un moment donné par l'horloge biologique. Il y a aussi des gens qui ont un désir depuis longtemps, mais qui n'arrivent pas à mettre en route une grossesse. Donc, des gens qui ont un parcours de PMA, par exemple, assez long, j'imagine, dans les gens que vous avez rencontrés, Annelise. Puis, il y a aussi des couples homosexuels et il y a aussi le cas de la famille recomposée, c'est-à-dire chacun a des enfants de son côté. Il y a eu une séparation, on se retrouve et ce nouveau couple a envie de sceller cet amour par un dernier enfant, mais on en a déjà eu avant.
Absolument.
Il y a d'autres figures que celle-ci parmi les portraits de couples ou même de femmes qui ont mis en route des grossesses tardives ?
Oui, absolument. Vous avez aussi les gays et les lesbiennes qui accèdent souvent tardivement à la parentalité. Les gays parce qu'ils vont se stabiliser en couple autour de 35 ans et qui vont eux aussi avoir envie de fonder une famille. Il y a aussi les mamans solo. Enfin, les futures mamans solo, voilà, on n'a pas trouvé le bon partenaire, on décide d'aller faire un enfant toute seule. Et puis, il y a la famille classique qui a déjà deux ou trois enfants et qui se dit, bah, voilà, on approche de 40 ans, mais on a quand même envie d'en faire un petit dernier pour la route. C'est quand même chouette, les enfants.
Mais quelle est la figure la plus importante, finalement, le cas que vous avez rencontré le plus souvent ?
Famille recomposée.
Voilà, famille recomposée. Encore une fois, il n'y a pas de chiffres très précis là-dessus, mais la famille recomposée, c'est sans doute le gros de la troupe, on va dire.
Et alors, quels sont, si on prend le sujet à l'envers, les freins psychologiques à ce désir d'enfant tardif ? Ce qui dissuade ceux qui, justement, ne veulent surtout pas avoir d'enfant tardivement ? Qui veut répondre ?
Les freins psychologiques aux personnes qui décident de ne pas faire d'enfants.
Justement, oui, l'inverse.
Moi, j'ai dans mon entourage plusieurs personnes qui ont choisi de ne pas faire d'enfants. Une de mes amies m'a dit dernièrement, moi, je ne veux pas de contraintes. voilà, un enfant, ce sont des contraintes, donc je n'en veux pas, ou qui ne se sentent pas du tout de feeling maternel et qui font ce choix, même si elles sont en couple, de ne pas faire d'enfant.
Oui, non, là, c'est l'idée de ne pas faire d'enfant du tout, mais il y a certainement des gens parmi ceux, ne serait-ce que vous avez rencontré vous personnellement, qui sont plus ou moins choqués par le fait d'avoir un enfant tardivement. Quels sont leurs arguments, finalement, ceux qui vous auraient dit, bah, moi, je ne ferai jamais d'enfant tard, parce que ça, c'est, ah oui, ça, c'est pas oui, possible.
Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'arguments.
Il y a des gens qui préfèrent faire des enfants jeunes et pour qui ça n'est absolument pas envisageable d'en faire tard, par exemple.
Effectivement, bah, il y a bien sûr la peur de ne pas pouvoir accompagner son enfant jusqu'au bout, de ne pas être là assez longtemps. Il y a la peur de la fatigue qui est très importante. Il y a beaucoup de culpabilité en fait, qui peut rentrer en ligne de compte dans ce non-choix. Voilà,
On vous a culpabilisé, vous ? Quand vous avez annoncé que vous étiez enceinte à 41 ans.
Ça a plutôt été bien accueilli. Ça a surtout surpris excessivement mon entourage. Non, par contre, moi, j'ai eu des réflexions pendant assez longtemps, jusqu'au jour où je suis tombée enceinte. On m'a demandé pourquoi je ne faisais pas d'enfant. Voilà.
C'est plutôt l'inverse.
C'est plutôt l'inverse. Mais une fois que je suis tombée enceinte, ça a plutôt été bien accueilli. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein.
Ce qui est fou, c'est que finalement, on culpabilise les femmes quand elles font des enfants tard parce qu'elles ne les ont pas eu assez tard. Et puis quand elles sont enceintes tard, on les culpabilise parce qu'elles sont enceintes tard. Finalement, on se demande à quel moment on ne nous culpabilise pas et on nous laisse faire nos choix librement. Et vous, il y a un peu un sentiment de culpabilité, un rapport aux autres, au regard des autres un peu difficile ?
Non, pas du tout.
37 ans, je pense que...
37 ans, c'est... c'était... Non, je n'ai pas de culpabilité. Mais par contre, j'ai le papa de mon fils est plus âgé. Il a eu son fils, notre enfant, à 50 ans. Et je sais que j'ai souvent calculé quel âge il aura quand mon fils aura 20 ans et moi, quel âge j'aurai quand il aura 20 ans. Ce 20 ans de mon fils était hyper important parce que c'est un moment où, pour moi, il faut être jeune, on fait des choses. Et je me disais, mais est-ce que je serai encore dans le coup, en fait, tout simplement.
Donc plus une question par rapport à lui que par rapport à vous, puisque lui était pas encore plus vieux.
Plus vieux, ouais. Ouais. Ouais.
Et bah là, je vais revenir à ce que nous a envoyé ce fameux auditeur, Romain, dont j'ai cité déjà une phrase en introduction d'émission et qui rejoint un peu ce que vous dites. Il écrit « Certes, j'imagine qu'un enfant eu tardivement peut aussi servir à ralentir la pendule. Cette échéance de se retrouver seule à la maison sans enfant qui serait sans doute le signal que je suis désormais devenu vieux. Néanmoins, je pense aussi qu'un couple heureux, soudé et épanoui, avec une vie sociale et culturelle riche et des projets à court ou plus ou moins long terme, est également une source de bonheur. C'est ce à quoi j'aspire, bien plus que de faire d'autres enfants à tout prix. Mais les deux, ça doit être le pied, non ? Alors cette idée de lutter contre une forme angoissante de vieillissement aussi en ayant des enfants tard, les personnes avec qui vous avez échangé vous en ont parlé de ça ? Je vais faire des enfants tard pour me sentir plus jeune plus longtemps. Peut-être c'est Agathe, c'est un argument que vous avez entendu.
C'est
ça
assez féminin. On a eu dans nos témoignants une femme, 41 ans, qui a déjà 4 enfants, qui a décidé de faire un 5e enfant. Et en plus, ils sont partis faire un tour du monde. Ils ont tout. Et en fait, ce 5e enfant a été un déclencheur pour eux. Ils se sont dit que la vie était là entre eux, qu'ils avaient des pharmacies, ils n'avaient pas le temps de voir leurs enfants. Pourtant, ils en avaient 4. Là, ils avaient une vie de dingue. Ils ont fait ce 5e enfant, 41 ans, et ils sont partis faire un tour du monde. Et c'était
avec
comme
le bébé.
Avec le bébé. Et c'était donc le tour du monde à 7, voilà. Donc c'était un regain de jeunesse, de vitalité. Et pour certains couples, c'est ça aussi, faire un enfant tard.
Vous avez envie de réagir, Annelise, à ça ? Vous, c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit ?
Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède. Je vis relativement dans le présent. Mais oui, j'ai quand même envie de passer du temps avec mon fils et vraiment de savourer toutes les étapes. Voilà, je n'ai pas envie de me dire « Ah mince, j'ai raté ça parce que le temps est compté et que inconsciemment, ça doit quand même me travailler. » Mais je ne vis pas dans l'angoisse du futur. Enfin, pas trop pour l'instant.
Mais du coup, comment on apprivoise ce rapport au temps ? On se dit ok, je passerai peut-être moins de temps avec mes enfants, mais il sera plus de qualité, je vais me rendre plus disponible. Ça met une pression qui vous donne l'impression d'être meilleur, peut-être ? Pas meilleur que les autres, mais de donner le meilleur en tous les cas.
Ça, peut-être que ça joue sur des choix de vie. Moi, j'ai choisi de travailler en freelance, d'être quand même à domicile, d'être relativement disponible, de consacrer mon mercredi après-midi. Voilà, c'est plus dans l'organisation de vie que sur l'organisation de vie que ça joue, je dirais.
Une des craintes qui accompagne le désir tardif de grossesse, bon, on a commencé à en parler, du coup, c'est celle de ne pas réussir tout simplement à tomber enceinte parce que physiologiquement, le corps refuse, et puis aussi parfois pour quelques raisons psychologiques bloquantes. On peut donner des coups de pouce, hein, comme boire des smoothies par exemple, Annelise Pernod, vous avez une recette à nous donner?
Oui, bien sûr, on peut donner des coups de pouce. En fait, l'âge joue un rôle fondamental, mais il y a aussi quand même l'hygiène de vie qui est hyper importante, la dimension psychologique. Et pour revenir au smoothie, où il y a des
très
plantes...
Très important, les smoothies.
Il y a certaines plantes qui peuvent booster l'équilibre hormonal, qui vont jouer sur le système endocrinien. Et là, on a effectivement un smoothie à base de maca. Je ne sais pas si vous voulez que je vous dise
la
recette. Ouais. D'accord, donc il faut une cuillère à café de maca, une cuillère à café de spiruline, une banane, une cuillère à soupe de graines de chia, qui sont très à la mode en ce moment, un demi-avocat, du jus d'amande sans sucre ajouté. Et en option, on peut rajouter une grosse cuillère à café de miel bio, parce que c'est important de se faire plaisir aussi.
Tout ça en mix.
Voilà, on mixe, on met ça dans un blender, on mixe et ça va jouer. Alors, vous n'allez pas tomber enceinte dans la minute, hein, évidemment, c'est pas une baguette magique, mais disons que ça peut participer, ça peut augmenter vos capacités procréatives. Après, c'est vraiment un ensemble, hein.
Il y a le
bien-être psychologique, l'hygiène de vie, et puis ensuite, il y a le vieillissement des cellules, on vieillit tous, hein. Après, c'est un peu inégal en fonction des personnes. Il y a des personnes qui font des bilans de fertilité à 40 ans qui sont tout à fait corrects, et pour d'autres, c'est plus compliqué. Ça dépend aussi beaucoup de ce que vous avez fait avant. L'hygiène de vie, c'est toute la vie.
En moyenne, il me semble avoir lu qu'à partir de 40 ans, on pouvait tomber enceinte dès le premier cycle pour 6% des femmes. C'est à peu près les chiffres que vous avez. C'est quand même possible. Et puis, ça augmente du coup au fur et à mesure des mois.
Bien sûr.
Tous les mois, il y a 6% de chances de retomber enceinte.
C'est possible. Hein. On en a croisé plein qui sont tombés enceintes.
Du premier coup.
Mais après...
Sans problème de fertilité.
Voilà, parce qu'après, il peut y avoir d'autres pathologies ou des dysfonctionnements qui nécessitent des interventions chirurgicales ou parfois de passer par la case PMA.
Agathe Giraud, tout à l'heure, vous parliez de certains freins psychologiques. Et cette tendance qu'a notre tête... Alors qu'on a un désir fort, à bloquer finalement le système. Alors ça marche pas comme ça pour tout le monde, mais dans pas mal d'histoires d'infertilité, on entend ça. À partir du moment où j'étais obsédée par l'idée d'être enceinte, j'y arrivais absolument plus. Puis le jour où j'ai lâché, je suis miraculeusement tombée enceinte. Est-ce que vous, dans l'année d'attente de la mise en route de cette grossesse, vous avez commencé déjà à vous poser des questions sur qu'est-ce qui pourrait faire que ça bloque? Est-ce que vous êtes rentrée dans un stress, une obsession? Et puis surtout, comment vous avez lutté contre ça?
Moi, j'étais dans un stress, effectivement. Tous les mois, je faisais des tests d'ovulation, déjà, pour savoir quel était le meilleur moment. Ensuite, je faisais des tests de grossesse à la fin du mois. Quand j'avais mes règles, j'étais tout le temps... c'était la méga mauvaise nouvelle de la journée. J'étais vraiment focussée là-dessus. Et bizarrement, le jour où je me suis dit, ça va pas marcher, en fait, c'est sûr, ça va pas marcher, je suis tombée enceinte, voilà.
Donc au moment du lâcher prise.
Voilà, et souvent, on nous dit ça, mais le problème, c'est que c'est très difficile de dire aux femmes, arrête d'y penser.
Bah oui.
Et d'ailleurs, ça les énerve, elles nous disent tout le temps, ça m'énerve, on me dit, arrête d'y penser, mais moi, je n'y arrive pas, Donc, dans le livre, justement, on conseille tout un tas de choses pour...
Défocaliser.
De confier son projet à un praticien, qui peut être un sophrologue, qui peut être un psychologue. Il y a une kyrielle de personnes qui sont là pour nous écouter et qui sont spécialisées en plus dans la périnatalité. Et il faut peut-être leur confier un peu le projet et puis leur livrer nos craintes, nos peurs, nos angoisses, notre stress. Et puis, quand on s'en va de la séance, on ne pense plus à ça, on essaie de penser à autre chose. C'est vraiment difficile, on le sait, mais il faut essayer de mettre des astuces en place pour déconnecter de ça. Et après, c'est vrai que c'est très difficile quand on rentre dans un parcours de PMA parce qu'on a des rendez-vous. pour procréer. Alors il y a des moments, des heures, il y a aussi la possibilité de prendre sa température, donc quand la température est élevée, c'est le bon moment. Donc bon, on n'est pas toujours disponible, on n'en a pas toujours envie, mais il faut le faire.
La question voilà, que beaucoup de gens se posent, c'est à partir de combien d'essais plus ou moins ratés, on commence à se poser la question de la stérilité et à envisager un parcours de PMA, disons à partir de 40 ans.
À 40 ans, quand on, au bout de 3-6 mois, si on voit que ça ne marche pas, on y va tout de suite. On consulte, on fait un bilan de fertilité. Il ne faut pas attendre.
D'accord.
On a eu beaucoup, beaucoup de professionnels qui nous ont dit les femmes attendent trop. Elles sont... Alors, il y a la vie qui passe très, très vite, hein, bien sûr. Il y a la confiance, on se dit ça va arriver, etc. Mais ça n'empêche, on consulte tout de suite, le plus vite possible, en fait.
Merci beaucoup. Alors, en seconde partie d'émission, on parlera, on continuera de parler de ces grossesses tardives, quelles sont leurs spécificités, et puis on parlera de l'accueil de l'enfant et de son éducation quand on a passé la quarantaine, pour les mamans comme pour les papas, hein, d'ailleurs. Et puis, en attendant, on va écouter une musique, on va écouter ce que vous avez choisi que nous écoutions à Kajiroro. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce titre ?
C'est un titre de Prince qui s'appelle Sometimes It Snows in April. Excusez-moi, j'ai peut-être pas le meilleur accent. Et c'est en fait tout simplement une chanson qui me rappelle ma sœur et qui, voilà, je l'aime cette chanson.
Moi, c'est une chanson qui va nous emporter. La neige en hiver, en même temps, voilà, on l'attend toujours là, la neige, mais on est quand même bien dans la saison, la magie de la vie aussi, hein, la neige
au
printemps,
c'est plutôt, magique.
C'est ça. Cette chanson, elle date de 1986 et elle faisait partie de la bande originale du film Under the Cherry Moon de 2002. Restez à l'écoute, chers auditeurs et auditrices, et profitez de cette pause, pourquoi pas, pour nous envoyer vos commentaires sur radiomédecine12.com et pour dire à tout le monde aussi que vous écoutez cette super émission très intéressante sur la parentalité tardive. Ça peut intéresser beaucoup de gens. À tout de suite.
Bien-être ensemble. Tracy died soon after a long-fought civil war. Just after I wiped away his last tear. I guess he's better off than he was before. Whole lot better off than the fools he left here. I used to cry for Tracy 'cause he was my only friend. Those kind of cars don't pass you every day. Tracy, 'cause I want to see him again. But sometimes life ain't always the way.
Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. All good things they say never last. Springtime was always my favorite time of year. A time for lovers holding hands in the rain. Now springtime only reminds me of Chase's tears. Always cry for love, never cry for pain. He used to say so strong, oh, unafraid to die, unafraid of the death that left me hypnotized. No, staring at his picture, I realize no one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, yeah. Sometimes I wish that life was never ending. But all good things they say never last. Often dream of heaven, and I know that Tracy's there. I know that he has found another friend. Maybe he's found the answer to all the April snow. Maybe one day I'll see my Tracy again. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. But all good things they say never last. But all good things they say never last. And love, it isn't love until it's past.
Bien-être ensemble.
Bien-être ensemble, ça continue en compagnie d'Anne-Lise Pernotte et d'Agathe Girorou et nous parlons aujourd'hui de parentalité tardive. Décider de faire un enfant après 40 ans, découvrir qu'on est enceinte par hasard ou réussir à se faire aider par la médecine, aujourd'hui ça arrive de plus en plus souvent, l'hygiène de vie et les progrès de la médecine ont fait progresser la fertilité des femmes ces 30 dernières années. Aujourd'hui, 6% des grossesses, comme on le disait, peuvent être enclenchées dès le premier cycle par une femme de plus de 40 ans. Et les femmes souhaitant avoir des bébés à 40 ans y parviennent finalement, enfin à partir de 40 ans, y parviennent finalement dans 60%, 65% des cas, selon les chiffres publiés par l'INED. Être enceinte, oui, mais dans quelles conditions les grossesses après 40 ans sont-elles plus compliquées selon vous, selon vos études, vos enquêtes, Agathe Girorou peut-être?
La grossesse tardive n'est pas tant risqué que ça. On a des spécialistes, je peux le citer, comme le professeur Salomon, qui nous a dit, pour moi, une grossesse tardive, je ne la traite pas d'une autre manière qu'une autre grossesse. Mmh. Donc, pour récapituler, un peu plus de trisomie, mais on passe de 0,1% à 0,3%, ce qui reste quand même très faible, avec des tests de dépistage qui sont de plus en plus précis.
Mais on ne fait plus la myosynthèse systématiquement.
Non, la myosynthèse n'est plus pratiquée. C'est ce qu'on appelle les tests intrusifs où on rentre une aiguille.
Voilà.
On évite, on a des prises de sang maintenant qui coûtent un petit peu plus cher et pas toujours remboursées, mais qui sont hyper fiables, et on sait exactement quel sera le caryotype de l'enfant. Donc un tout petit peu plus de trisomie, un tout petit peu plus d'hypertension peut-être, mais pareil, on passe d'un faible pourcentage à un pourcentage un peu moins faible. Mais c'est s'il y a quelque chose qui est un petit peu plus risqué, c'est vrai, c'est les fausses couches.
En début de grossesse,
on a tous, à tout âge, des risques de fausses couches, oui. Mais plus on vieillit et plus ces risques sont importants. Voilà. Et passé les 3 mois, évidemment, on se nourrit correctement. Mais à part un petit peu d'hypertension, c'est une grossesse normale.
Vous n'avez pas été traitée comme une femme enceinte particulière à partir du moment où vous avez été enceinte à 37 ans, Agathe. 37,
non, j'ai entendu dire, à 37 ans j'étais enceinte, donc j'ai entendu dire, oui, à votre âge, il faut quand même faire attention, on va quand même vérifier, etc. Bon, moi j'étais extrêmement stressée pendant ma grossesse. Donc
merci pour le stress supplémentaire.
Voilà. J'aurais une fois de plus lu ce livre, je me serais dit « Oh, mais c'est cool, je vais me faire un petit smoothie, puis voilà. »
Le livre que vous avez donc écrit, voilà. « Avoir un enfant à 40 ans voilà. » avec Annelise Pernot.
Mais en fait, ma grossesse était hyper bien passée.
Et vous, Annelise Pernot, vous avez eu l'impression d'être traitée comme... une femme enceinte parmi les autres à 41
oui,
ans.
Oui, absolument. Ouais. Oui. Alors, c'est à l'hôpital Necker. J'ai vraiment eu un suivi totalement classique. La seule chose, je me souviens, c'était pour le diabète gestationnel. Il me semble que les pourcentages étaient un peu plus stricts pour les femmes au-delà de 40 ans. Mais sinon, j'ai pas eu plus d'échographie, j'ai pas eu plus de prise de sang. Voilà, ça s'est vraiment passé de façon très fluide et très classique.
Plus que l'âge, finalement, c'est la façon dont on a entretenu son corps, la façon dont on a vécu pendant des années qui a des répercussions, certainement, plus ou moins sur la manière dont on vit une grossesse tardive. Après 40 ans, Annelise Pernot, quelques, justement, conseils de base sur une hygiène de vie avant 40 ans, si on n'a pas envie d'avoir des enfants avant 40 ans, mais qu'on le projette plus tard, ce qui pourrait faciliter...
Alors, des choses assez classiques. Hein. C'est vrai que globalement, l'alcool, la cigarette ne facilitent pas la procréation. Hein. Ça, c'est clair. On a quand même des chiffres sur la question. Alors, je ne les ai pas en tête, mais il y a des chiffres assez précis sur... sur ces deux points.
C'est-à-dire que ça a une influence sur la faculté des femmes à tomber enceinte aussi sur la grossesse en elle-même et son bien-être.
Absolument.
Sur les deux.
Ouais. Le surpoids aussi ne facilite pas du tout la capacité à tomber enceinte. Mmh. Et bien sûr, c'est compliqué pendant une grossesse d'être en surpoids. Donc voilà, oui, l'idée c'est quand même d'avoir, de pratiquer une activité physique, de manger à peu près correctement, de fumer raisonnablement, c'est-à-dire ne pas boire d'alcool du tout, évidemment, hein, on ne demande pas d'avoir un style de vie monacal, mais faire un petit peu attention.
Oui, plus on a une hygiène de vie saine, plus c'est un capital pour la grossesse et le bébé.
Oui, c'est ça.
Agathe Giraud.
Oui, et ce qu'on dit aussi dans le livre, c'est qu'on a tous remarqué qu'en vieillissant, même sans grossesse, en vieillissant, on a un petit peu plus mal au dos le matin quand on se lève, on a un petit peu plus mal aux genoux quand on se baisse. Le corps vieillit, et le corps vieillit aussi quand on est enceinte. Donc forcément, une grossesse à 40 ans, on a peut-être un petit peu plus mal au dos, un petit peu, mais c'est...
Y a des grossesses, très compliquées aussi, rappelons-le, même quand on est très jeune. Parce qu'effectivement, l'âge, donc, c'est bien ça, l'âge ne fait absolument pas tout, quoi, finalement.
Non.
Et l'accouchement, alors, tant redouté à tout âge aussi, hein, est-ce qu'il est plus compliqué? Est-ce qu'il requiert plus de préparation quand on est plus âgé?
Je pense que les femmes de 40 ans s'impliquent beaucoup dans leur grossesse. Donc, elles ont suivi normalement les cours de préparation, elles sont informées. On a aussi remarqué que toutes ces femmes qui ont des enfants tard sont très, très informées pendant, avant et après. Donc, elles gèrent, elles savent, elles se préparent, elles essayent de... Et les accouchements, voilà, elles ont suivi les cours, donc elles savent qu'il ne faut pas arriver trop tôt, qu'il faut prendre un petit bain, un doliprane, et que l'accouchement va relativement bien se passer. Après, une fois de plus, plus on vieillit, le risque à l'accouchement, c'est l'hémorragie qui augmente. Et ça, on a encore des professeurs qui nous ont dit, attention, une grossesse passée 45-46 ans, il y a des risques d'hémorragie. Et voilà, ça arrive. Mais bon, il y en a un par an, par exemple. Donc, ce n'est pas non plus énorme.
Plus de césariennes pratiquées aussi ou pas? Après ouais, 40 ans, vous avez les chiffres?
À peine
Annelise Pernot,
hein, à peine plus, il me semble. Hein. Ouais, ouais.
Elles sont peut-être pratiquées en prévention, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est une grossesse tardive, on va peut-être plus facilement aller à la césarienne. Il y a cette tendance-là ou pas?
J'ai pas tellement non. Ce sentiment. Je pense que ça dépend vraiment de la position de l'enfant, mais ça, c'est à tout âge.
Bah oui.
Non, il n'y a pas de désir de... Non, et puis en plus, en France, on n'est pas très pro-césarienne. On essaye de faire passer le bébé par voie basse le plus possible. Et une fois de plus, ces femmes de 40 ans, elles ont envie de vivre leur grossesse aussi à 100%. Et elles vivent la grossesse à 100%.
Et l'accouchement
c'est
aussi.
C'est de le sortir, ce bébé. Vraiment.
Parlons aussi de l'accueil du bébé, des premiers jours et des premiers mois avec lui. Quand on a 40 ans, on est... plus fatiguée ou on a peur de l'être en tous les cas, mais on a aussi peut-être plus les moyens de se faire aider, ne serait-ce que des moyens financiers. Annelise Pernot ?
Oui, alors il y a cette fameuse période postpartum, qui les trois premiers mois de l'arrivée de l'enfant, qui n'est pas forcément évidente à 40 ans. Après, ce qu'on essaie de donner dans le livre, ce sont des techniques pour pallier à cette fatigue. Il y a la micro-sieste qui est quand même très très efficace et qui est pratiquée dans plein de corps de métier d'ailleurs. Et voilà, on peut en quelques minutes récupérer très rapidement, retrouver de l'énergie à tout moment de la journée. Il suffit de s'entraîner. Et l'idée, c'est de ne pas tomber dans un sommeil trop profond, en fait. C'est de profiter des premières phases du sommeil, donc le sommeil léger, l'endormissement. Et ces quelques minutes-là, hein, c'est une dizaine de minutes, rarement plus, vont être précieuses et vont permettre un regain d'énergie pour attaquer la journée ou pour la poursuivre.
C'est comme ça que vous avez géré votre fatigue, vous ?
Moi, alors j'étais pas trop fatiguée à l'arrivée de l'enfant, mais c'est plutôt... plus tard, on va dire, hein, voilà, passer les 6 mois quand le bébé commence à être bien actif, à bouger un peu dans tous les sens. Moi, j'ai pratiqué la micro-sieste assez rapidement. Je trouvais ça assez efficace.
C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas été si fatiguée que ça, finalement.
Peut-être. Voilà. Après, il y a bien sûr tout ce qui est relais. Hein. On parle dans le livre des règleuses d'enfants. Si on a les moyens de faire appel à une règleuse d'enfants, ça peut être d'une grande aide.
Qu'est-ce que c'est une règleuse d'enfants ?
Alors, une règleuse d'enfant, c'est quelqu'un qui vient s'installer chez vous et qui règle le sommeil de votre enfant. C'est-à-dire qu'elle va dormir dans la chambre du bébé et elle va faire en sorte que le bébé fasse progressivement ses nuits.
Comment ?
Alors, elles ont des techniques.
C'est des magiciennes.
Ce sont souvent des femmes qui ont une grande expérience de la maternité, qui ont été doulas, par exemple. Ouais. Voilà, donc, elles ont leur propre technique. C'est très progressif. Hein, elles ne mettent pas des baffes pour qu'il arrête de pleurer. Non,
ça ne marche pas, en fait.
Ça ne marche pas. C'est tout un art. Ça peut prendre un certain temps et ça marche. Par contre, c'est extrêmement coûteux et bien sûr... voilà, ça ne s'adresse pas non plus forcément à tout le monde.
Mais parfois, voilà, quand on a un enfant tardivement, on a déjà une situation professionnelle bien installée, on peut se le permettre. Donc, ça fait partie des pistes à explorer si on le peut.
Après, juste une dernière chose, c'est quand même l'implication du père. Parce qu'on... un enfant, on le fait à deux. Bon, après, sauf erreur de parcours, on a encore deux pour l'élever. Et c'est vrai que les pères tardifs sont quand même réputés pour être assez disponibles, assez engagés. Donc, ça peut aussi aider à pallier la fatigue, impliquer le papa dans son rôle de papa.
Bah ouais. il paraît que les femmes après 40 ans sont plus sujettes au baby blues. Comment ça s'explique, ça ?
Annelise Pernot, toujours ? Oui, tout à fait. quand on a attendu un enfant longtemps, qu'on l'a beaucoup désiré, qu'on a beaucoup projeté sur lui, c'est vrai que l'écart entre l'enfant fantasmé pendant une grossesse et l'enfant qui sort du ventre et que vous tenez dans vos bras juste après l'accouchement peut être assez grand et ça peut favoriser le baby blues, voire la dépression postpartum.
Il y a l'idée aussi de se dire que c'est peut-être pour celles qui n'en auront eu qu'un, pour celles pour qui c'est le premier, que c'est peut-être le premier et le dernier aussi, et que donc c'était la dernière grossesse.
Oui, il y a ça, mais il y a surtout tout ce qu'on a projeté vraiment sur l'enfant. Et alors, ça ne se passe pas exactement comme on l'avait imaginé. On n'a pas forcément le mode d'emploi. Voilà, même si on a beaucoup lu, on s'est beaucoup documenté. Et ça peut favoriser effectivement des situations un peu compliquées sur le plan psychologique et baby blues ou postpartum.
Agathe Giraud, vous voulez réagir ?
Je rebondis sur ce que Anne-Lise dit. Effectivement, on a dit que les parents tardifs étaient très documentés et souvent il y a un petit peu des décalages entre ce qu'il y a dans le livre et dans la réalité. Bébé pleure, on ne sait pas, on ne comprend pas. Et puis les parents tardifs ont un engagement. Ils ont pris cette décision d'avoir un enfant. Ils l'ont réfléchi en règle générale.
C'est souvent un projet. Il y a peu
de
hasard.
C'est quand même un projet, quoi. C'est quelque chose qu'on a réfléchi. Donc on s'est dit, je le fais, mais implicitement, on a passé un contrat avec soi-même en se disant « je vais être au top, je vais être au top, je vais être un super parent ». Et en fait, il y a plein de trucs qui nous échappent parce qu'un bébé, quand il est là, il pleure, imagine, on ne sait plus et ça nous échappe. Et on se dit « mais je suis pas bien, je suis pas à la hauteur, finalement, est-ce que j'aurais dû prendre cette décision, etc. ?» Et je pense que là, c'est surtout ce regard critique sur soi-même qui peut engendrer une certaine déprime, dépression. Et c'est là aussi qu'on veut décomplexer tout le monde, les parents tardifs, vous êtes comme tout le monde en fait, et vous n'êtes pas parfait, non, parce que ça n'existe pas et que votre enfant va se nourrir de cette imperfection pour être un individu à part entière, et c'est génial, voilà.
Donc là, on parle d'éducation, finalement, il y a des objectifs, si j'entends bien ce que vous me dites, même au-delà des premières semaines et des premiers mois après la naissance de bébé, il y a des objectifs de super parents dans l'éducation, une pression que les parents tardifs se mettent, ça, et que peut-être l'entourage met aussi, ça je ne sais pas. Est-ce que l'entourage met la pression ? Non, l'entourage lâche, ils sont grands, ils vont se débrouiller.
En fait, il faut parfois avoir la dimension de ce que vit un couple qui va traverser 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans de PMA. Ils ont mobilisé du personnel. Ça a coûté beaucoup d'argent. Parfois, ils sont partis à l'étranger pour le faire. Ils ont vécu des mauvaises nouvelles, des filles qui se passaient mal, des machins comme ça. Donc, le jour où ça arrive, enfin, il y a un enjeu qu'on ne peut pas imaginer, en fait. Il faut être au top pour cet enfant. Et souvent, les témoignages nous disent qu'ils veulent un enfant parfait, ils sont au taquet, sur la politesse. Et quelques années après, ils se disent il faut que je lâche, parce que ils projettent sur cet enfant tout cet espoir qu'ils ont eu et ils se sont mis la barre hyper haute.
Il y a une charge très forte sur tout le monde, sur les enfants aussi.
Bien sûr, mais après c'est énormément d'amour. Alors tous les parents donnent de l'amour à tout âge, bien sûr, mais là c'est énormément aussi, c'est une manifestation de toute cette attente, de tout cet amour qu'ils avaient à donner et qui tombe comme ça.
Qu'est-ce qu'on appelle les parents curling ou hélicoptère? Anis Pernot.
Alors, les parents curling ou hélicoptère, ce sont les parents qui essayent qui assistent leurs enfants dans toutes les situations. Voilà, le parent curling, c'est celui qui balaye tous les obstacles, en fait, face à son enfant, au fur et à mesure qu'il avance dans la vie. C'est une image qui est assez parlante. Et c'est vrai que l'hyperparentalité, c'est un des écueils à éviter pour le parent tardif, parce qu'on a un peu tendance à tomber là-dedans.
Mais le côté positif, c'est aussi plus d'engagement, plus de disponibilité.
Bien sûr.
Une espèce d'envie comme ça de ne pas perdre une miette
absolument.
De cette relation, j'imagine.
Oui, absolument. Oui, c'est l'envie d'être là, c'est l'envie de transmettre des choses un peu alors pas forcément rapidement, mais en sachant toujours que le temps nous est compté parce qu'on sera peut-être plus là dans 30 ou 40 ans. Donc l'envie de transmettre des valeurs, de profiter de chaque étape de l'enfant, de pas attendre, de pas remettre des projets au lendemain. On parlait tout à l'heure de la famille qui est partie faire le tour du monde. Bah voilà, c'est maintenant, on le fait maintenant parce qu'on ne sait pas si dans 10 ans on pourra le faire.
Alors, il y a beaucoup de théories, vous disiez tout à l'heure, Agathe Girorou, c'est-à-dire que les parents qui ont des enfants tardivement ont eu le temps, finalement, de se renseigner, de projeter. Il y a beaucoup de théories, mais est-ce qu'il y a encore une place, quand on est parent tardivement, pour l'instinct ?
Bien sûr, il y a toujours une place à l'instinct, puisque le sentiment qui va naître entre l'enfant et nous, déjà, c'est quelque chose d'assez animal. On a la manière dont on va se comporter, et ça, une fois de plus, c'est tous les parents. Et j'ai envie même de dire, puisque on parle quand même dans notre livre des parents homosexuels, et le lien qui peut se créer entre un couple d'hommes et un enfant issu de la GPA, donc... il y a au niveau du moment où il arrive, le pot à pot, etc., quelque chose, un lien qui se crée. Et c'est même, donc on a dans notre entourage des personnes qui ont eu ces enfants par ce biais-là, et l'instinct a été hyper fort, le sentiment d'être père, de devenir responsable de cet enfant est très fort. Et bon, après, c'était encore des personnes très renseignées, avec une tonne de livres à la maison, mais n'empêche qu'il y a un moment donné, il y a eu
quelque chose de plus fort
avec l'enfant, ça s'est fait, quoi. Le lien est là.
Et peut-être on va revenir sur aussi le rôle des pères quelques instants. Est-ce qu'il y a dans les personnes que vous avez rencontrées, est-ce que vous avez pu identifier des grandes différences entre la manière dont les mamans tardives et les papas tardives vivent cette parentalité, du coup ? Agathe Girorou ?
Les mamans, une fois de plus, de tout âge, sont un petit peu plus dans l'organisationnel de la maison, la vie de la famille, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, etc. Et les papas tardifs qu'on a pu interroger sont complètement dans le temps présent, dans ce qu'ils vont transmettre, hyper cool, hyper à l'écoute. Je pense notamment à Daniel qu'on a longuement interviewé et qui a eu des enfants aux alentours de vers 58 ans, 60 ans. Il disait à ses enfants mais regarde dans les livres, tu vas trouver plein de choses, c'est intéressant. Et ses parents lui disaient mais papa, on a internet. Et il s'est dit ok, bon bah très bien, je me mets à jour et je vais essayer de leur donner des nouvelles infos. Mais il est tout le temps là, il est au courant de ce qu'ils font, ses enfants se confient à lui, mais il est cool. Cool.
C'est peut-être pas toujours en même temps ce qu'on attend d'un papa qui soit super cool.
Alors, la différence peut-être avec un papa qui est en train de faire sa carrière à 30 ans, qui est un petit peu focusé sur, sur le fait de rentrer de l'argent dans le foyer parce qu'on a un nouvel enfant, etc. Et c'est quand même la majorité des cas. Quand on a 58 ans, la carrière, elle est faite. Lui, en plus, il se trouve qu'il a la retraite. Donc... ça ne l'empêche pas de faire du sport, d'être au goût du jour. Il a une femme un petit peu plus jeune, bien sûr. Et il garde ses enfants, il a l'écoute.
Ça lui permet de rester jeune aussi, c'est un peu ce qu'on
ouais,
disait.
Mais je pense pas que ce soit un papa qui soit laxiste et qui les laisse faire n'importe quoi pour autant. Mais il est là.
Être ado, quand on a des parents qui approchent la soixantaine ou même qui l'ont dépassé, alors au final, ça donne quoi ? Parce que quand on vieillit, c'est ça, on se retrouve un peu vieux avec des ados à la maison. Et il y a un écart qui se creuse, non ? Vous en avez eu aussi des témoignages de ça, de parents tardifs, d'ados ? Qu'est-ce que ça donne, Anne-Lise Pernes ?
Oui, c'est un petit peu l'histoire de Daniel dont parlait Agathe. Effectivement, quand il y a deux générations d'écart, c'est pas évident, mais les parents tardifs qu'on a interrogés souvent essayent de rester à la page. Avoir des enfants sur le tard, c'est aussi une cure de jouvence. C'est aussi quelque chose qui vous maintient jeune parce que vous n'avez pas trop le choix.
Donc, oui, mais ça peut pas être une motivation de base. C'est pas une motivation suffisante pour faire des enfants, se dire j'en fais juste pour rester jeune. Mais après, c'est un fait.
Après, c'est un fait, c'est-à-dire qu'au quotidien, ça implique quand même de rester à la page, de se maintenir un peu jeune. Et puis, pour ceux qui font un choix un peu différent, ils vont transmettre d'autres choses à leurs enfants. Ils vont peut-être pas aller courir au square. Alors là, on parle des ados, mais ils vont plutôt être dans la transmission de valeurs, dans je sais pas, l'échange échanges sur la vie, sur le monde. C'est quelque chose de différent.
Vous parlez de transmission, c'est pas la première fois depuis le début de cette émission. Vous diriez qu'avoir des enfants tard, voilà, c'est aussi ça, une question de transmission, et que ça fait vraiment partie des arguments qui font qu'on se décide à faire un enfant tard. Ce besoin de transmission qu'on n'a peut-être pas quand on est très jeune.
Alors, est-ce que c'est un argument? Je ne sais pas, Agathe.
C'est quelque chose qui est ressorti dans vos échanges.
Je pense qu'il ne faut pas perdre d'esprit que le désir d'enfant à 40 ans, ça reste quand même un désir. Et comme on disait, il y a quand même une partie animale en nous. Il y a parfois des choses qu'on on en a envie plus que tout. Et la plupart des parents, quand ils veulent un enfant, ils décident d'avoir un enfant. Alors, bien sûr, ils intellectualisent tout en disant comment je serai vieux, machin, et la grossesse va bien se passer, je serai fatiguée, pas fatiguée. Bien sûr, il y a plein de choses. Et l'argent, est-ce que j'aurai assez pour tout ça? Mais n'empêche qu'au fond, il y a un désir vraiment très profond et fondamental. Qui est vraiment physique, et au niveau de la transmission, après, bien sûr, on a envie de transmettre, parce que faire un enfant, c'est aussi une prolongation de soi-même, de ses idées, de ses envies. Et quand on a 40 ans, on a un tout petit peu roulé sa bosse, donc on a son idée sur l'écologie, on a son idée sur la politique, on a son idée sur le travail, on a son idée sur le bien-être. Et ça, on s'est dit, ok, j'ai quelques petites longueurs d'avance, je vais profiter de cette expérience pour la donner à mon enfant, et que lui puisse avoir ses outils pour faire sa vie. Et je pense que c'est ça la grosse différence. À 20 ans ou 25 ans, on se dit j'en aurai d'autres. Et voilà, on fait les enfants, c'est le cours normal de la vie finalement. C'est le cours normal. Donc on se pose peut-être moins ces questions de transmission. À 40 ans, on se dit c'est la fin, dernière chance. Après, il n'y en aura peut-être plus. Qu'est-ce que j'ai envie de donner à cet enfant?
Un vœu pour cette nouvelle année, Anne-Lise, peut-être pour votre enfant, pour votre fils, ou pour nos auditeurs, ou pour l'humanité en général.
J'aimerais que, pour cette nouvelle année, que tous ceux qui ont envie d'avoir un enfant à 40 ans, un petit peu avant, un petit peu après, ne se laissent pas submerger par les inquiétudes, les angoisses. Ça se passe bien, si on a envie, il faut le faire. Je pense qu'il faut vivre sa vie au temps présent, voilà. Et ne pas attendre, on en a entendu, on va repousser, machin. Oui, mais je viens d'avoir un nouveau boulot, on verra après la période d'essai. Non, vivez la vie maintenant, voilà.
Anne-Lise Pernot.
Oui, un petit peu dans le même esprit. Effectivement, moi, je souhaite aux gens d'assumer leur choix. D'assumer leur choix et de faire les choses quand elles doivent être faites. Et de ne pas hésiter à emprunter des chemins de traverse. Ça fait peut-être le lien avec la chanson.
La chanson qui va suivre. Je vais vous redonner la parole dans quelques instants. Et puis, vous allez pouvoir nous présenter justement la chanson que vous avez choisi qu'on écoute pour conclure cette émission. Agathe Giraud, vous êtes donc journaliste et co-auteur avec Anne-Lise de Avoir un enfant à 40 ans, publié aux éditions Erol, et qui vient tout juste de sortir. Un lien peut-être à donner, un site pour retrouver des événements, vos travaux. Vous avez un site internet?
Nous avons un site internet. Je vous invite donc à le consulter. C'est www.avoir-un-enfant-a-40-an.fr. C'est avoir un enfant à 40 ans. Et c'est un site internet où vous trouverez énormément d'informations, des témoignages.
C'est un peu le relais du livre.
Exactement.
Anne-Lise Pernot, vous êtes consultante dans le digital et fondatrice du webzine Digital Côté Bébé. Vous êtes aussi aujourd'hui journaliste et puis la co-auteure, je ne sais pas si on dit comme ça, de ce livre, Avoir un enfant à 40 ans. On vous retrouve où, comment? Sur la toile, sur Internet? Sur le même site.
Sur le même site, absolument, voilà. Et donc, c'est un site sur lequel c'est le pendant du livre, mais il y a aussi, on va dire qu'on essaye d'enrichir tout le travail qu'on a fait sur le livre. Donc, il y a beaucoup de podcasts, d'articles, de conseils, d'astuces. N'hésitez pas à venir le consulter.
Merci à tous et merci à toutes les deux pour votre participation à cette émission. Chers auditeurs et auditrices, sachez que cette émission sera rediffusée tous les jours de la semaine prochaine à 17h et puis que le podcast est désormais disponible. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Anne-Lise, donc, dites-nous enfin avec quel titre on va se quitter, et puis on va Voilà, boucler la boucle de cette émission sur la parentalité tardive.
Alors, on va se quitter avec Walk on the Wild Side de Lou Reed. Et voilà, et c'est un petit peu un clin d'œil au chemin de traverse, parce que comme on le disait en début d'émission, la parentalité tardive, ce sera peut-être la norme d'ici 20 ou 30 ans. Mais aujourd'hui, on est un petit peu des pionniers. Voilà.
Walk on the Wild Side, Lou Reed, 1972. N'hésitez pas à prendre les chemins de traverse et à explorer aussi votre côté un peu plus sauvage, déraisonnable, on va dire. Et puis, j'avais envie aussi de vous livrer une citation très, très ancienne du philosophe Plutarque. La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force. Bon week-end à tous et à très vite sur l'antenne de Radio Médecine Douce. Et encore une fois, très heureuse année à tous, fertile en tout genre. A plus.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo. Do 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 do. Thank you.